Bonjour à toutes et à tous. Cette fin de matinée, nous avions prévu un thème que nous avons intitulé à l'origine, c'était les hommes et leurs indispensables systèmes. Il y avait des invités qui étaient prévus qui ne sont pas venus, des invités qui n'étaient pas prévus qui sont venus. Donc on est robuste et on est agile. On jongle, on a 35 minutes de retard parce qu'il y a Bleugard Lozer qui nous a téléphoné pour faire une petite interview de sur l'événement. Et comme j'étais en transfert sur la route, il y avait un endroit où il y avait du réseau, donc je me suis arrêté pour pouvoir faire l'interview. Le point de départ, c'était les hommes et leurs indispensables systèmes. Et en fait, on a construit tout le week-end sur la thématique de l'homme et de la biosphère, puisqu'on a un partenariat avec le syndicat de Haute-Vallée-Sévenol, puisque le syndicat de Haute-Vallée-Sévenol est le garant de la politique homme et biosphère de l'UNESCO depuis 1986-4, je ne sais plus, enfin depuis le siècle dernier. Et donc, on a construit cet événement homme-biosphère. Donc, on s'était dit sur ce week-end, le samedi, on va faire les hommes et leurs indispensables systèmes. Et puis, finalement, on a continué à bifurquer. Et on s'est dit, en fait, c'est la technosphère et la biosphère. Puisque cet après-midi, aux alentours de 16h, on aura une table ronde sur les systèmes naturels, donc la biosphère. J'ai pris 2-3 notes pour me rappeler de quelques concepts que j'avais écouté sur des interviews de certaines personnes que j'adore, comme Aurélien Barraud ou d'autres. Et j'ai toujours un souvenir pour un de mes professeurs principaux en études sup, et je le répète à chaque fois, qui disait toujours « Revenez au concept de base, sinon c'est de la conversation de bistrot ». Donc les concepts de base, sur lesquels moi je voulais introduire le sujet, c'était sur les sphères écosystémiques. Alors moi, il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi sur ces trucs-là. Je tente d'être un vulgarisateur. Je ne suis juste qu'un gars qui est élu par des gens pour administrer une collectivité. Et on se dit qu'on pourrait faire différemment pour administrer une collectivité que de faire toujours pareil comme on fait depuis toujours. Donc on s'est dit, on va construire un truc où les gens participent à la décision. On ne sait pas comment, mais il faut communiquer pour ça. Donc je suis là en tant que vulgarisateur et en tant que facilitateur et pour mettre en relation les gens. Donc je reviens à mon concept. Les sphères un peu écosystémiques, ce n'est pas exhaustif, mais moi c'est ce que j'ai compris. Donc je vous livre ce que j'ai compris. On a la lithosphère, qui est les sols, les sous-sols, donc avec litho, la pierre. La pédosphère, qui est le sol, l'infime partie de sol qui permet aux vivants de vivre. La pédosphère, au-dessus de la pédosphère et en dessous partout, d'ailleurs on a l'hydrosphère, le monde de l'eau. Alors elle est sous-décomposée entre cryosphère et tout ça en fonction de son état. Il y a les eaux vertes, les eaux bleues, etc. Si je dis des conneries, tu me dis hop, c'est faux. Ensuite, il y a une surcouche qu'on appelle la biosphère. Ça c'est le vivant, c'est nous, c'est les arbres. C'est les insectes, c'est la biosphère. Dans cette biosphère, on a inventé un truc, on a appelé l'anthroposphère. Parce que nous, on est un peu au-dessus du lot, on s'est dit on va se faire une sphère pour nous. Au-dessus de la biosphère, forcément, c'est là où on respire, il y a l'atmosphère. Et on a inventé un truc aussi, nous les humains, c'est la technosphère. La technosphère, c'est tous les outils techniques, toutes les infrastructures, toutes les superstructures, tout ce qu'on fabrique. Et compose à la surface du globe. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que la technosphère, c'est juste toutes les autres sphères transformées. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la technosphère aujourd'hui pèse plus lourd en masse, à une masse plus importante que la biosphère. C'est-à-dire que ce bâtiment derrière nous, le bloc extérieur climatisation dont j'ai honte, les micros, les machins, toutes les technologies qu'on utilise, les relais et les machins, ça pèse plus lourd que l'ensemble du vivant. Je crois que c'est 2025, me semble. Je ne sais plus qui a sorti cette info. Donc voilà, c'est les concepts sur lesquels je voulais attaquer le truc. Et quand on prend connaissance de ces ressources, en fait, puisque ça, hier, c'est Jérôme qui a esquivé la table. Il est où, Jérôme? Il est là. Jérôme Cohen, tu nous as fait un petit truc sur Coca-Cola, avec le coût écologique de Coca-Cola, la valeur de l'entreprise Coca-Cola, et ce qu'elle avait pompé en ressources naturelles. Et qu'en fait... Social et écologique, ouais. En ressources sociales et écologiques, ouais, effectivement. Et en fait, ils sont déficitaires, ils nous doivent des ronds, c'est ça, hein ? Voilà, on en est d'accord. Donc, ben en fait, tout ce vivant, toute cette masse sur laquelle on est, on pioche dedans, mais il y a un deuxième concept qui vient par-dessus toutes les sphères, c'est les concepts des limites planétaires. Et ces limites planétaires, alors ce matin, j'étais obligé d'aller au bureau, parce que j'avais un truc à régler, j'en ai profité, voilà. Ça, alors je sais plus de qui il est, j'ai plus la bibliographie, mais en fait c'est un schéma qui est hyper connu. La zone verte au milieu, mais après comme ça, est-ce que je vous donne suffisamment de matière pour enclencher derrière ? Ouais, voilà, parce que derrière, comme ça je vais aller boire des cafés là-bas, et puis je vais revenir. Donc, en fait le cercle vert que vous avez au milieu, c'est la zone de sécurité. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore pompé dans le capital. On sait qu'il peut se régénérer. Au-delà de ce cercle vert, eh ben, il y a tous les dépassements. Et donc, on a référencé, alors ça c'est un job de scientifique que je ne suis pas capable de vulgariser, mais on a donc localisé 9 limites, et sur les 9 limites, on en a dépassé 6. Dans les limites, on a les masses de pollution chimique, l'appauvrissement de l'ozone atmosphérique, la concentration atmosphérique en aérosol, l'acidification des océans. Alors ça, c'est les 3 qu'on n'a pas encore dépassé. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ensuite, on a les perturbateurs des cycles biochimiques. Ça, c'est le phosphore et l'azote, c'est ça. Ensuite, on a le cycle de l'eau douce qu'on a éclaté. On a le changement d'usage des sols qui est éclaté aussi. On a l'intégrité de la biosphère. On a tout cramé aussi. Et changement climatique, on est pas mal aussi. Donc, en fait... Et je vais passer la parole. Alors, dans quel ordre vous la voulez ? Madame en premier ? C'est pas... D'accord.
On va se présenter.
Ouais, je vais vous passer le micro, comme ça vous vous présentez. Et ensuite, on va attaquer l'échange avec le public aussi. Et donc, pendant que je passe le micro, je vous montre un autre petit schéma, qui est celui-ci. Bon, il est tout petit, j'ai pas eu le temps de faire de l'infographie propre. Mais en fait, ça, c'était les limites en 2009. On en avait dépassé 3 en 2009. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. Non, 4 en 2015. Et on est en 2024, on est à 6. Voilà. C'est pour poser les bases. Alors, c'est pas pour faire de la dépression collective du tout. Hein. C'est juste pour qu'on pose les choses. On sait où on en est. Donc, il y a une célèbre affiche. C'était qui, toi qui baigne dans ce milieu, Patrick ? L'affiche où il y a le bonhomme qui dit l'an 1, on pose tout et on arrête et c'est pas triste. C'est qui l'auteur ? Bon, je vais le retrouver. GB, merci. GB, c'est une intro à la GB. On pose le truc et c'est pas triste et puis on attaque. Benoît en premier ? Monsieur Benoît Virol.
Merci. Bah, écoutez, on m'a demandé de venir faire une courte communication, donc ma communication sera courte. Et je vais la commencer à partir d'un questionnement qui est le mien, qui est sur la question de la robustesse. Comment est-ce qu'un système, une entreprise ou une institution qui crée un produit robuste peut-elle survivre dans un environnement qui est guidé par la loi tendancielle de la baisse du taux de profit, c'est-à-dire la loi de base du capitalisme qui fait que toute entreprise est amenée à un moment donné à devoir diversifier ses produits. En diversifiant ses produits deviennent plus fragiles et donc il y a une contradiction inhérente entre la notion de robustesse et le marché, le marché libéral tel qu'il existe. Alors on peut toujours fantasmer en disant que le marché va disparaître ou qu'il va y avoir une transformation radicale de notre société qui ferait qu'on ne serait plus en économie capitaliste, mais c'est de l'ordre de, pour l'instant en tout cas, de l'instant de l'utopie. Donc il faut faire avec le réel tel qu'il est. Le réel tel qu'il est, c'est le marché, c'est la loi tendancielle de la baisse du taux de profit, et donc les entreprises et les institutions de façon générale sont amenées à devoir diversifier leurs produits et les rendre plus fragiles. Donc la robustesse est un concept qui est incongru dans le monde réel dans lequel nous sommes. pourtant, et c'est le sens de ma communication, je pense que la robustesse est un concept fort qu'il faut défendre, mais il faut peut-être le défendre de façon différente de là où on est habitué à le défendre, et je vais essayer de l'expliquer brièvement, en partant de la question de la complexité. Nous vivons tous dans des environnements qui sont des environnements qui complexes. Et le mot complexe, c'est pas un mot magique qu'on utilise comme ça pour se faire plaisir, c'est une réalité scientifique. C'est-à-dire, la complexité, c'est quelque chose qui a sa propre légitimité et sa propre existence. Alors la complexité, c'est quoi? C'est effectivement, on vit dans des systèmes écologiques qui sont eux-mêmes constitués de strates différentes, on vit dans des systèmes économiques qui sont d'une grande complexité, on vit dans des systèmes institutionnels, avec un droit différent, des normes juridiques. On vit dans des systèmes politiques, la création du lien social, le maintien du lien social, et tout ceci s'entrechoque ou s'agrège dans des environnements d'une très très grande complexité. Alors, et donc on vit là-dedans. Donc, on peut effectivement se dire qu'on fait des sections. On va parler simplement de la technosphère ou des écosystèmes, mais on fait des réductions. Et quand on fait des réductions, on laisse des choses de côté. Donc, il faut aborder la complexité de façon générale. Et quand aborder la complexité du monde de façon générale, c'est rentrer dans un processus de deuil. Et le deuil, c'est difficile et ça suscite de la souffrance. Et comme on n'a pas envie de souffrir, et bien souvent on refuse de faire ce travail de deuil. Ce travail de deuil, il se décline en trois volets. Il faut d'abord faire le deuil de la compréhension de la globalité. On ne peut pas comprendre la globalité du monde. Alors, et devant cette difficulté, on se spécialise. Alors, on aura des spécialistes en économie, des spécialistes en écologie, des spécialistes en géologie, etc. Mais ces spécialisations, en fait, elles sont des obstacles à la compréhension de la globalité, parce que la globalité, on peut pas la concevoir. Donc, nous devons faire le deuil de la globalité. C'est le premier deuil, douloureux. Le second deuil, qui est un deuil difficile, encore plus difficile, c'est le deuil de la cause. Il y a dans l'esprit humain quelque chose. Bon, c'est peut-être ma formation et mon exercice d'analyste qui peut nourrir cette pensée-là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très très profond dans l'esprit humain qui est qu'on ne peut pas comprendre la réalité si on n'utilise pas la notion de cause. Bon, c'est d'ailleurs quelque chose qui était existant dans la philosophie d'Emmanuel Kant. Comprendre le réel, c'est identifier des causes. Et bien aujourd'hui, on ne peut plus identifier de causes. Parce que dans le réel est déterminé par une interaction récursive entre les causes. On ne peut pas dire que c'est l'objet A qui cause l'objet B, parce que l'objet B, il va déterminer l'objet C, qui va redéterminer l'objet A. Donc les causalités, elles sont circulaires. Donc tout discours aujourd'hui qui dit tel phénomène observable est déterminé par telle cause initiale, c'est un discours faux, c'est une réduction. Donc il faut faire ce travail de deuil, et il est difficile à faire. D'une certaine façon, dans l'écologie politique telle que nous la vivons aujourd'hui, il y a un refus de cette notion de cause avec la notion d'eschatologie. Il va y avoir une catastrophe. 2040, c'est la fin du monde. Les systèmes vont s'écrouler. Donc, pour pallier à la difficulté d'identifier la notion de cause, qui est impossible, on intuitionne une catastrophe à venir, la fin du monde, l'écroulement, le collapse généralisé des systèmes, mais c'est une façon en fait d'éviter la compréhension de la notion de cause. Et le troisième deuil, c'est le deuil de l'action. Une action ne peut pas être décisive. Il n'y a pas d'action possible sur une réalité complexe dont les dimensions échappent non seulement à l'intelligibilité, mais échappent à l'action. On agit sur un événement, ça va modifier globalement, localement quelque chose, mais ça va générer des effets pervers qui vont faire autre chose. On peut, en économie, jouer sur un paramètre, ce paramètre va déterminer d'autres choses qui vont arriver, l'effet inverse. La crise du politique aujourd'hui dans le monde, c'est la crise de l'action. Il ne peut plus y avoir d'action possible. Et donc quand on regarde les choses en complexité, on est amené à faire ce triple deuil, et c'est difficile et c'est douloureux. Mais il y a de l'espoir. Voilà. 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 Et l'espoir, eh bien, il vient des mathématiques. Ah, voilà. C'est-à-dire que dans un système complexe, il y a, et ça c'est Raymond Poincaré qui l'a mis en évidence, il y a la possibilité de trouver un bon angle d'attaque, c'est-à-dire un bon angle de pénétration dans le système complexe pour arriver jusqu'à son cœur et arriver à avoir une intelligibilité globale. Et je crois que la robustesse est une de ces sections qui permettent d'avoir une intelligibilité globale de la complexité. C'est le bon angle d'attaque. Et parce que en créant à l'intérieur de la complexité des îlots de stabilité qui sont construits autour de la notion de robustesse, vous pouvez générer, et là c'est un autre phénomène physique, vous pouvez générer des effets de percolation où il puisse y avoir à partir de ces îlots de stabilité, de ces îlots de vertu en quelque sorte, une entreprise par exemple qui décide de convaincre ses actionnaires de limiter leur taux de profit pour créer des objets robustes qui soient pérennes dans le temps et qui puissent permettre d'exister malgré la variation du monde, et ben ces îlots de stabilité peuvent agréger autour d'eux d'autres acteurs et créer des îlots de plus grande dimension et de franchir un seuil quantitatif et qualitatif qui génèrent des effets de percolation qui puissent se diffuser globalement dans le système, donc dans la société. Donc cette notion-là, elle me semble plus réaliste que d'attendre soit la révolution mondiale et la disparition de la propriété privée. Hein, on n'en est plus dans ces utopies communistes qui sont des utopies fantasmatiques qui ont pu être sympathiques mais qui ont amené aussi des choses extrêmement, extrêmement catastrophiques comme le goulag et qui sont porteurs comme quelque chose de mortifère. Les utopies, quand elles sont trop déconnectées du réel, deviennent mortifères. Et puis, ne pas attendre non plus forcément de l'État, puisque l'État aujourd'hui est déliquescent, la capacité à pouvoir transformer la réalité et de pouvoir générer ces îlots de stabilité et ces îlots de robustesse. Donc ma conclusion, c'est que oui, la robustesse est un concept fort, il faut pouvoir le défendre, il faut pouvoir le mettre en action. Il y a une légitimité à ce concept de robustesse pour affronter la complexité du monde, mais cette notion de robustesse doit être dégagée, à mon sens, des idéologies utopistes. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Et juste, j'ai peut-être mal écouté, vous n'êtes pas présenté ?
Non, mais moi je suis un voisin, j'habite à Bruguerolles à côté. Voilà, non, je viens en tant que voisin et puis Mathieu Vilco m'a demandé de faire une communication. Moi je suis psychanalyste. Voilà, personne n'est pas. Mais j'ai beaucoup travaillé sur la notion de complexité, sur les systèmes complexes. Donc je connais bien les notions de complexité. Voilà.
Eh bien, merci. Et je passe après vous. Je vais être un peu plus bref. Merci Adrien pour l'invitation. Je m'appelle Charlie Lévesque et je travaille dans une association qui s'appelle le Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie. C'est une association de protection de la nature. Il y en a d'autres. Hein. Il y a plein d'autres associations de protection de la nature aujourd'hui. Il était prévu à l'origine, je ne sais pas pour me défausser, mais que j'intervienne exclusivement, essentiellement dans un atelier, une table ronde qui aura lieu cet après-midi, parce que mon cœur de métier, c'est de concilier agriculture et biodiversité, ou enjeux écologiques et agriculture. Donc c'est mon domaine d'expertise et mon parcours, c'est là-dessus que je travaille. Mais néanmoins, je vais me plier à l'exercice, Adrien, sans problème, dans mon domaine de compétences ou ce que je connais le mieux, de parler de ces fameuses limites planétaires et de comment est-ce que ça touche le secteur de, voilà, je coordonne un pôle qui s'appelle agroécologie. Vous avez peut-être entendu parler un petit peu de ce que c'est que l'agroécologie, mais il y a plein de choses qu'on peut dire sur les... J'ai essayé de réfléchir à ce que je pouvais dire, donc par rapport à ces limites planétaires, en fait l'agriculture, l'alimentation, une alimentation durable, on les touche, on les dépasse. L'organisation de la production alimentaire mondiale et en France est potentiellement dans le gare, elle n'est pas du tout soutenable dans le temps. malheureusement, parce qu'on épuise certaines ressources, parce qu'on ne produit pas une nourriture ou parce que les productions agricoles ne sont pas suffisamment nourricières. Je n'ai plus exactement le scope du Gard, mais je ne suis pas certain. Peut-être qu'Émilie, vous le savez mieux que moi, mais bon, là, on est dans un territoire particulier. Mais si on va plus dans la plaine ou en Costière ou dans un département que je connais mieux, moi je vis dans l'Hérault en Pic-Saint-Loup, il y a 90% des surfaces arables qui sont destinées à la viticulture, il y a des raisons historiques pour ça. Il m'arrive aussi de manger et de boire du pinard, j'ai pas de problème avec, mais si on veut avoir des systèmes alimentaires soutenables à une échelle territoriale cohérente, mettons la région, bon bah il va peut-être... Et de les produire, de produire l'alimentation d'une façon soutenable sans dépasser les limites planétaires, il va falloir qu'on se penche sur la question de l'occupation des terres, de l'occupation des sols. C'est une question éminemment complexe, mais il va bien falloir qu'on en discute. Et il y a déjà des territoires, des collectivités territoriales qui sont au travail. Je crois qu'il y a un projet alimentaire territorial qui est porté, enfin il y en a différents qui sont portés dans le Gard, il y a le département, à l'Est agglomération, voilà. C'est les bons théâtres pour en parler, mais bah, il faut que les bons acteurs aussi soient réunis et s'y impliquent. Mais je vais être un peu moins théorique et peut-être plus pragmatique. Et après, je te passerai la parole, Ingrid. Et puis, on échangera, en fait, parce que je ne vais pas beaucoup parler. Puis, vous aurez peut-être des questions. Moi, ce que je constate, je travaille essentiellement, exclusivement avec soit des naturalistes, donc des experts de la nature, ce que je ne suis pas, et des agriculteurs, voilà, des paysans qui ont la volonté d'accueillir, de maintenir ou d'augmenter la capacité d'accueil de la biodiversité sur leur ferme. Or, ma frustration, et on travaille sur des nouveaux projets, c'est que ben, je trouvais qu'on avait une approche un peu égoïste avec eux. On venait, on faisait le taf pour qu'il y ait autant ou plus de biodiversité sur leur ferme, mais on n'arrivait pas à résoudre leurs problématiques qui sont multiples et complexes, de produire de la bouffe, de se dégager un salaire, d'avoir une vie digne, de s'adapter aussi aux changements climatiques, de commercialiser leur production, bref, etc. etc. J'enfonce des portes ouvertes. Et du coup, je pense qu'une meilleure façon de bien appréhender toutes leurs problématiques, c'est justement travailler à la résilience ou à la robustesse, pour moi c'est des mots qui sont un peu synonymes, de faire en sorte que leur ferme, que leur petit écosystème agricole ou leur grand écosystème agricole soit plus résilient. Donc face à l'effondrement du vivant, il ne vous a pas échappé qu'on est en train de vivre un effondrement massif. On en a déjà vécu dans l'histoire de notre bonne vieille terre, mais là on le vit, je crois que c'est 100 fois plus rapide. C'est de cet ordre de grandeur-là que les extinctions qu'on a vécues par le passé sur la Terre, c'est vous dire la gravité du problème. Et cet effondrement du vivant, donc on dépend tous d'un vivant en bonne santé, on en fait partie. Mais je sais que je prêche une tribune de convertis ici. Les agriculteurs en sont directement, en sont pas les premières victimes, mais en tout cas, qu'ils s'en rendent compte ou pas, ils en sont victimes. L'appauvrissement du vivant, l'érosion de la biodiversité et le changement climatique rend leur système agricole de plus en plus fragile. Et donc, c'est urgentissime. Vous n'êtes peut-être pas le territoire le plus concerné ici, quand on regarde, quand je me retourne et j'ai pris la route, et c'est un peu plus vivant, en tout cas, et ça me paraît un peu plus robuste, même s'il y a sans doute plein de problématiques que là où je viens, ou quand je vais dans la région de Narbonne, où je suis dans des paysages exclusivement viticoles. J'ai rien contre la vigne, mais en tout cas, il n'y a plus de naturalité, donc c'est un petit peu mortifère. Il n'y a plus de capacité d'accueil du vivant non cultivé. Mais donc, du coup, ces agriculteurs, ils ont plein de questions. Voilà. Moi, je sais leur dire comment on peut être plus favorable au cirque à Jean Leblanc. Je crois que la star du coin, c'est l'azuré du Serpollet, un papillon de jour. Voilà. Ça, je sais leur dire. Par contre, ils ont besoin de réponses sur comment est-ce que la biodiversité ou un bon fonctionnement écologique autour de ma ferme va m'aider à produire de la bouffe. Et donc il y a des gens qui travaillent là-dessus, j'en fais partie, mais il y en a d'autres pour leur apporter des réponses. Les agriculteurs et les agricultrices ne m'ont pas attendu pour trouver des réponses. Par contre, comme le disait monsieur en introduction, on a un vrai souci d'injustice économique dans le monde agricole aujourd'hui. C'est que si je reprends le schéma qu'a montré Adrien... On pourrait imaginer que, donc oublions les limites planétaires, mais que là, on représente les performances, en fait, productives d'une ferme. Voilà, un producteur de châtaignes, par exemple, au hasard, comme ça, dans le coin. Aujourd'hui, il est principalement rémunéré sur son rendement. Il y a un petit peu de PAC, mais c'est le rendement qui va déterminer. On va le juger sa performance agricole à l'aune de son rendement. Or, un producteur de châtaignes qui a des pratiques agroécologiques, il va aussi prendre soin du vivant. En gros, il va être dans le vert là. Il va éviter d'épuiser ses ressources planétaires. Et puis j'espère qu'il y a. Vous comprenez, je n'ai rien contre les viticulteurs, mais par exemple, quelqu'un qui est dans un système viticole très industriel, il va être très performant en termes de rendement, il va produire beaucoup d'hectolitres par unité de surface. Par contre, il ne va pas être dans le vert en termes d'usage de ressources. Il va utiliser des engrais de synthèse, il va utiliser des pesticides de synthèse qui, malheureusement, sont très destructeurs. Mais il va être peu inquiété là-dessus. En gros, je voulais juste vous illustrer. Un exemple, ou même comparons deux viticulteurs entre eux, ou deux castanéiculteurs entre eux, voilà, un système industriel ne va pas être pénalisé, parce que c'est l'organisation économique et légale du monde ou de la France actuellement, versus un producteur qui a des pratiques très 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 vertueuses. On parlait tout à l'heure là de bénéfices ou de coûts sociaux et environnementaux, les systèmes agroécologiques nous apportent tous, prennent soin de biens communs qui sont le vivant, le tissu social qu'on peut avoir dans les territoires, et des systèmes agricoles plus destructeurs, ils ne le font pas nécessairement volontairement, c'est pas mon propos, mais détruisent des biens communs et ne sont pas taxés là-dessus, et inversement, ceux qui en produisent ou qui en prennent soin ne sont pas rémunérés là-dessus. Donc moi, je n'ai pas vraiment de solution magique. On essaye de travailler pour soutenir avec des fonds environnementaux ou éviter des coûts pour des systèmes agricoles qui s'inscrivent dans les qui prennent en compte les limites planétaires, voire qui restaurent même des ressources qui n'utilisent que des ressources renouvelables, qui restaurent, qui réaccueillent de la biodiversité. Encore une fois, vous vivez dans un territoire où je pense que les problématiques sont un petit peu différentes que d'autres territoires plus intenses que je peux connaître. Mais une illustration de aujourd'hui, si on regarde le paysage agricole français, malheureusement, il dépasse énormément de limites planétaires. Pourquoi ? Parce qu'une majeure partie du paysage agricole français est composée de fermes qui sont en système dit conventionnel. Ça recouvre, il y a des agricultures en fait en France, il n'y a pas une agriculture, mais ça ne vous aura pas échappé. Vous connaissez sans doute plein d'agriculteurs autour de vous. Et je criminalise personne, je viens d'une famille de paysans très conventionnels, je les adore. Néanmoins, il y a des systèmes qui ne sont pas soutenables dans le temps. Dans la région d'où je viens, il y avait un bocage très beau, diversifié, c'est le berceau de l'arrache charolaise. Il est en train de se banaliser, ce bocage. On abat des chênes tricentenaires parce que ça nous emmerde, parce qu'on ne peut plus passer en dessous pour faire les foins. Or, petit à petit, on n'a plus que des haies basses. Voilà. Et puis, on a une surpopulation de campagnols qui est en train de pointer le bout de son nez. Ah oui, mais qui régule les populations de campagnols ? Tout un tas de micro-mammifères, des martres, des fouines, des renards et aussi des rapaces. Il y a beaucoup de bus dans mon coin, il n'y a pas de cercueil Jean Leblanc. Et les rapaces, ils ont besoin d'arbres très hauts sur lesquels ils peuvent se percher pour avoir une vision d'approche. Il y a des gens de la LPO qui les connaissent beaucoup mieux que moi. C'est un exemple très concret de dire, quand on appauvrit, en gros, on a fragilisé là, un écosystème et il y a des répercussions directes. Une invasion de campagnols pour un éleveur qui fait du foin, c'est parfois jusqu'à 60% de rendement en moins. Donc c'est important de connaître ça et d'accompagner aussi les agriculteurs. Parce que je sais, pour l'avoir fait sur la ferme de ma famille, entretenir un réseau de 40 km de haies, ça prend du temps. Quand il y a une tempête automnale et qu'il y a des branches par terre, il n'y a personne qui vous donne un coup de main pour le faire. Donc, en tout cas, il y a déjà des territoires qui s'en occupent. Il me semble qu'ici, il y a pas mal de choses qui se font. Mais mon boulot, c'est d'accompagner, de soutenir des systèmes vertueux, de discuter avec des gens qui ont des systèmes qui sont peut-être pas très résilients, qui dépassent certaines limites planétaires, c'est de voir quelle marge de manœuvre on a pour qu'on re-rentre dans des systèmes, qu'on reste dans la limite de ces systèmes-là pour avoir plus de résilience. Tout à l'heure, vous le disiez, en fait, le seul souci qu'on a, et moi je ne peux pas éluder la question, je suis d'accord avec vous, on ne peut pas attendre le grand soir. Donc on doit trouver des solutions immédiates, urgentes, mais en tout cas, c'est un avis personnel là, qu'engage pas ma structure, on doit quand même essayer de construire le grand soir, parce que tant qu'on n'aura pas... Moi, je dis souvent ça, je trouve des petits pansements là, où je mets le doigt dans des fuites là, avec des agriculteurs qui font déjà plein de choses, mais tant qu'il n'y aura pas... tant qu'on ne va pas s'entendre pour prendre en compte ou récompenser ou prendre en charge les coûts, comment dire, aujourd'hui les dégâts qui sont faits socialement ou sur l'environnement, sur la biosphère, dans les systèmes agricoles sont socialisés, on les paye tous, la dépollution de l'eau, les maladies. Un exemple qui parle beaucoup à des agriculteurs, parce que de plus en plus sont atteints par la maladie de Lyme, c'est que la biodiversité, hein, vivant en bonne santé, réduit la pression de tout un tas de maladies. Ouais, je suis parti dans tous les sens, mais c'est pas grave. Est-ce que vous savez qu'en fait la plupart des prédateurs, les bestioles qui bouffent des tiques, en fait une fois que la tique est passée, des tiques porteuses de la maladie de Lyme, des bactéries qui sont responsables de la maladie de Lyme, une fois que les tiques sont passées dans leur système digestif, on ne retrouve plus la maladie de Lyme là-dessus. Il y a des publications scientifiques sur le sujet, mais c'est le cas pour plein d'autres maladies transportées depuis la nuit des temps par des animaux. En fait, un vivant complexe en bonne santé va réduire la pression de tout ça. Et ça, ça parle, parce que des agriculteurs, ils me disent, mais t'es bien gentil avec ta biodiversité, mais ça va me servir à quoi? Concrètement, sur ma ferme, ça va m'aider à quoi? Ben, je lui dis, voilà, des éleveurs, notamment, en général, il y a des tiques sur leur bestiole, ils ont au moins une personne dans leur entourage qui est atteinte par la maladie de Lyme, ben, ça, ça leur parle. En plus, c'est gratos, enfin, ou presque. Parfois, il n'y a juste qu'à laisser faire. Par contre, de façon plus générale, si on veut systématiser ça, d'abord, les agriculteurs, agricultrices, paysans qui ont une pratique agroécologique ne s'en sortent pas tous, malheureusement. Ils ont parfois des circuits de distribution plus locaux, ils ont plus de marge de manœuvre, mais c'est loin d'être l'Amérique pour eux. Hein. Ils sont souvent dans des situations précaires et on se doit de les soutenir. Donc moi, j'essaye avec d'autres de trouver des solutions, mais tant qu'il n'y aura pas une rémunération des biens communs qu'ils préservent ou qu'ils agradent, je pense qu'on s'en sortira pas. Et tant qu'il n'y aura pas... aujourd'hui, on n'est pas incité à arrêter d'avoir des pratiques destructrices. Vous avez des systèmes agricoles qui sont très destructeurs. Encore une fois, ce n'est pas forcément volontaire. Mais rien n'incite ces agriculteurs et ces agricultrices-là à changer de système. Et tant qu'on on peut encore acheter des engrais de synthèse sans être énormément taxé là-dessus, même si, par exemple, pour l'ammonitrate, qui est un engrais très azoté, c'est de l'azote qui est présent dans l'air qu'on va fixer, mais ça nécessite énormément d'énergie, donc énormément de carbone. En gros, ça produit énormément de CO2, et c'est encore trop peu coûteux d'acheter de l'ammonitrate versus des engrais organiques, des couverts végétaux, du broyat, etc., etc. Donc tant qu'on n'aura pas d'incitation forte, et ça passe par des décisions politiques, j'ai prononcé le gros mot, mais il faut que ça passe par là, bah on va pas systémiser. Ah pardon, mais j'étais pas là hier, moi, excusez-moi. Ok, autant pour moi. Voilà, bon, je m'en arrête là, c'était peut-être un peu tutti frutti, mais on pourra prendre des questions par la suite.
Un lien avant de te passer du temps pour t'aider, parce que c'est vrai que c'est un peu pratique, mais non, mais pas toi, mais moi, non, surtout. Ton propos était super, s'il n'y a pas de souci. Je voulais faire un lien avec la première prise de parole de monsieur Virol à ma droite. En fait, effectivement, il y a les deuils, ce concept est hyper intéressant. Le deuil, notamment dans la compréhension du système. Et en fait, là, on est en présence. De personnes qui sont administrateurs ou professeurs dans les écoles d'ingénieurs. Et c'est vrai que je crois que faire ce deuil-là dans une école d'ingénieurs, tu nous diras, on fera passer le micro après, Sébastien, mais je pense que c'est un truc assez rigolo, c'est un sacré challenge. Ça me rappelle une interview d'Aurélien Barraud qui, dans le train, avait rencontré un ingénieur de mine. Tu l'as entendu ? Elle était juste géniale. Bon, un gars voit Aurélien Barraud dans le train. Bon, il se reconnaît quand même pas mal, le gars. Elle dit, monsieur Barraud, je suis très heureux de vous rencontrer. Donc, il s'assoit devant lui et dit, je voulais savoir, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Et vous faites quoi? Vous faites qui? Et donc, il dit, moi, je suis étudiant en mine. Je ne sais pas quelle école des mines. Et Aurélien Barraud lui a répondu, démolissez votre école. Et après... Ça lui a ouvert des sessions, il a été invité dans toutes les écoles, toutes les grandes écoles, même les écoles de business. Et en fait, effectivement, l'ingénieur, il se focalise sur un sujet, il se spécialise. J'ai découvert un graphique qui était hyper intéressant sur les études depuis le collège, avec un espèce de pic, je ne sais pas qui c'est qui a conceptualisé ça. Et en fait, plus on avance dans les études, plus c'est pointu. Et les gens qui sont en recherche... Ah bon, tu dis... C'est fake déjà ? Ouais, fais un dialogue, attends, fais tourner le micro.
Je sais pas si il marche. En fait, je fais plusieurs liens avec ce que tu dis. Le premier, c'est que quand on a réfléchi à venir ici, je t'ai dit, et c'est par rapport à ce qu'a dit M. Virol, je t'ai dit, moi, je cherche à me passer de l'argent public. Je cherche à me passer des pouvoirs publics parce qu'ils ne sont pas sur les mêmes échelles de temps. Et je crois beaucoup en ce que vous avez dit. On fait des îlots et il faut un peu de temps quand même pour qu'ils soient robustes, ces îlots. Premier sujet. Deuxième sujet, c'est qu'on ne forme plus les ingénieurs à être hyper spécialisés. On essaye, humblement, les former à « je comprends un champ de contraintes et je trouve des solutions ». Et en fait, là où, avec Ingrid, on essaye de travailler, c'est, et elle l'a dit un peu hier, quand on leur fait faire de la controverse, c'est, on leur apporte plusieurs approches pour qu'ils aient un sens critique. Mais l'ingénieur hyper spécialisé, alors il reste en micromécanique, en informatique, etc., il en reste. Mais en tout cas, dans une école des mines, on forme des ingénieurs généralistes. On forme des ingénieurs, c'est surtout, on essaye de les inculquer à réfléchir, à proposer des solutions. Et c'est ce que j'ai dit hier soir, quand je suis intervenu, et encore plus à l'école des mines d'Alès, où on n'a plus trop envie de les faire réfléchir à... Je suis intervenu sur le moteur, est-ce que électrique ou explosion. En fait, j'ai dit non, en fait. La meilleure voiture, c'est celle qu'on n'a pas à produire, parce qu'on a changé nos usages. Et donc, nous, on les pousse à réfléchir usage, de plus en plus. Voilà, donc c'est pour ça que je réagis en disant, on les forme plus trop, en tout cas à Alès, à être des hyper spécialistes. Et d'ailleurs, je crois qu'ils n'ont plus très envie de ça, d'ailleurs.
Mais en plus, ta réponse est parfaite, parce que j'allais venir à l'inverse de mon côté. C'est-à-dire qu'on se forme, et quand on arrive dans un univers, je peux en témoigner dans mon activité professionnelle, parce que j'ai une activité d'ingénierie, et bien, en fait, on ouvre un champ qu'on n'avait même pas imaginé qu'il existait, où c'est un nouvel univers peuplé d'une diversité d'interaction, dans la complexité des systèmes, etc. Et en fait, ce qu'a expliqué M. Virol en introduction, c'est qu'à chaque fois, vraiment, c'est une espèce de métaverse. C'est-à-dire qu'on passe, on passe un trou noir, on ouvre un truc, on se dit « Merde, mais il y a tout ça là-dedans. Mais comment on va ?» Et derrière, c'est des nouveaux champs d'expérimentation. Et effectivement, la description qu'il nous fait... Alors, en fait, j'essaie de faire le lien parce que je veux te donner la matière aussi. On improvise à fond, là. Et en fait, on se dit, mais il y a un nouveau champ qui s'ouvre et on fait de la méta, de la perma, de la perma-résistance ou de la perma-structure.
Il y a un modèle d'entreprise qui s'appelle la perma-entreprise d'ailleurs, hein,
oui.
Et qui développe plutôt des petites entreprises au lieu de partir sur des gros groupes.
Oui, parce
qu'en fait, tu dis, c'est totalement ça. C'est voir le monde humain comme un jardin en permaculture. Je pense que ça, c'est une pensée qui est très intéressante et qui nous permet de rebondir les uns avec les autres. Et moi, je parle beaucoup d'hybridation notamment. Je pense qu'on a besoin d'un monde hybridé, de personnes avec leurs qualités, avec leurs difficultés, voilà. Et je pense que tout ça est très complémentaire, dès lors que, et c'est un peu ce que dit Jérôme sur le rôle central de la confiance, dès lors que on apprend l'amour plutôt qu'autre chose, c'est-à-dire dès lors que j'accueille l'autre dans son altérité. Et ça, pour moi, c'est la clé, typiquement, c'est ce qu'on essaie d'apporter à nos élèves. C'est vraiment, soyez dans l'altérité et ça va vous ouvrir des perspectives. Comme tu le dis, on n'imagine même pas. Enfin, on ouvre la porte et derrière, on fait, mais waouh, j'avais même pas imaginé que je trouverais tout ça. En fait.
Derrière cette porte, je savais pas qu'il y avait ça. Et nous, on le voit dans les systèmes économiques, c'est que il y a des sociétés qui sont issues de grands groupes, qui sont verticales, structurées, hyper hiérarchisées, avec des organigrammes de fous furieux. Elles sont totalement inopérantes. Elles ne fonctionnent pas. Nous, dans mon activité professionnelle, je gravite avec des boîtes qui font des travaux, justement pour construire des infrastructures. Et en fait, on se rend compte qu'au bout de la chaîne, ce qui m'arrive d'aller sur des réunions de chantier, etc., avec mes collaborateurs, qu'au bout de la chaîne, en fait, l'efficience du produit construit, elle repose sur le savoir-faire du dernier ouvrier qui est à l'exécution, parce que toute la chaîne hiérarchique est tellement occupée à remplir des tableurs qu'en fait, la connaissance métier s'est totalement dissipée. Et lorsqu'on a des gens à l'exécution qui sont en capacité d'absorber des savoir-faire, on a des équipes qui marchent, mais elles marchent d'autant mieux qu'il n'y a pas de manager. Et ça, c'est totalement hallucinant.
C'est la subsidiarité dont parlait Olivier hier, proche du terrain. Après, il ne faut pas occulter le besoin de reconnaissance. On a tous besoin de reconnaissance, et ça, c'est tout le temps. C'est-à-dire qu'un manager qui pense qu'une fois dans la semaine, il va dire à son gars « je t'ai vu et c'est bien ce que tu as fait », ça ne suffit pas. En fait, on a un besoin permanent de reconnaissance. C'est humain, c'est comme ça. Et donc, quand tu dis « pas de manager », à la fois, qui nous reconnaît ? Ok, pas de manager, mais qui nous reconnaît dans le travail ? Parce que c'est quand même un système essentiel. Il y a quelques années, à l'école des mines d'Alès, ils ont essayé de mettre en place une expérience holacratique. Et ça a explosé parce que d'abord les managers n'étaient pas préparés, et ensuite parce que d'un coup, des personnes qui travaillaient dans une école pyramidale depuis 180 ans, hein, l'école des mines d'Alès c'est 1843, d'un coup ils n'avaient plus du tout de repères. Donc il faut donner le temps au temps, c'est là où je veux en venir, c'est ok, fixons un îlot et donnons-nous le temps, et le dire surtout, de dire le coup de l'excellence ça suffit. On prend le temps de faire les choses. Parce que ce dont on crève, c'est de dire, ouais, ok, mais dans 6 mois, j'aurai transformé mon organisation. Oh, tranquille.
Voilà, non, non, il y a des processus, j'appelle ça des processus protéiformes. C'est des trucs. On en a parlé hier sur la réunion de l'après-midi, parce qu'on parlait des systèmes forestiers. Et on en parlera cet après-midi. Et effectivement, il y a plein de paramètres qu'on ne maîtrise pas. Je vais te passer la parole. Ah mais là, ouais, en fait, je voulais ouvrir le sujet, mais là, je crois qu'on continue la conversation.
Merci. Donc Ingrid Bazin, je suis enseignante chercheuse, biologiste et directrice des transitions à Minales, mais aussi à l'Institut Minetelecom pour l'ensemble des écoles de France de l'Institut. Et donc effectivement, mon intervention n'était pas prévue.
Moi non plus d'ailleurs.
Donc voilà, donc pareil, hein, je vais me plier à l'exercice. Alors que dire, le lien, donc le sujet c'était technosphère et biosphère, et à la base j'étais intéressée pour écouter les autres. Donc voilà, donc je vais aussi apporter ce que nous on fait dans notre système là-dessus. Alors si on revient à ces 9 limites planétaires, ce qu'on essaie de montrer à nos élèves, parce qu'il faut savoir que les premiers cours de nos élèves du côté des transitions, c'est on parle de ces 9 limites planétaires. Donc quand ils sortent de chez nous, ils sont conscients en fait de qu'est-ce que c'est qu'une limite planétaire, et du coup qu'est-ce que la technosphère, comment la technosphère a impacté cette limite planétaire. Voilà. Eux, effectivement, ils viennent là pour avoir un diplôme. Hein. Le plus souvent, ils arrivent, ils disent « je veux un diplôme, je deviens ingénieur, donc je vais être celui qui va graviter au sein de la technosphère ». Et qui va avoir tendance à se dire « bon ben voilà, pour pouvoir résoudre les problématiques environnementales, climatiques et autres, eh bien nous aurons le technosolutionnisme hein. ». C'est un très beau mot. Voilà. Et nous, ce qu'on essaie de leur faire comprendre, eh bien que justement, en fait, il ne faut surtout pas aller là-dessus. Alors, pas dire que la technologie ne peut rien faire, mais en tout cas, comment mettre la technologie à sa juste place et remettre l'humain, la nature, les écosystèmes au centre. Parce que souvent, je leur explique que jusqu'à présent, la technosphère a pris énormément de place parce qu'elle a voulu maîtriser la nature. Maîtriser la nature pour qu'elle puisse devenir performante. C'est le cas, effectivement, dans l'agronomie. Devenir performante, et pour ce faire, on a mis des engrais, on a mis beaucoup de technologies au niveau de l'agriculture, et les conséquences, eh bien, c'est typiquement, ça impacte énormément la biodiversité, et ça impacte, pareil aussi, la qualité de l'eau, ça je sais, parce que c'est mon domaine de recherche, l'impact sur l'eau. Donc souvent, je leur dis, ben, aujourd'hui, on se pose la question. Bon, ben, finalement, tout ce qu'on a fait pendant plus de 50 ans, c'est venu atteindre en fait toutes ces limites planétaires. Aujourd'hui, comment faire pour réparer ça ? Sachant que le retour en arrière, comme vous disiez, ben, c'est un petit peu un chemin de deuil. Comment on va se dire, ben, là, aujourd'hui, ce que je faisais, c'est vraiment pas bon par rapport à l'environnement ? Parce que si l'environnement, encore une fois, n'est pas sain, eh bien, c'est pas la planète qui va mourir, mais c'est nous, humains. Donc, ce qu'on cherche, c'est à nous soigner, nous, en premier. Parce que, comme tu disais, c'est que quelque part, lorsqu'il y a un déséquilibre au niveau des écosystèmes, eh bien, ça peut aussi atteindre aussi le déséquilibre humain. Et, quelque part, on peut être malade par rapport à des infections, etc. La preuve, c'est qu'on a eu le Covid-19, on savait pas d'où ça venait. Est-ce que c'était un singe qui l'avait ramené? Est-ce que c'était une technologie humaine qui l'avait créé, etc. Aujourd'hui, je crois qu'on n'a toujours pas la raison, mais enfin bref. Et donc voilà, donc en fait, cette technosphère, aujourd'hui, nous, à l'école des mines d'Alès, on essaie de faire comprendre aux ingénieurs, mais aussi à toutes nos parties prenantes, internes et externes, c'est-à-dire tous ceux qui viennent travailler chez nous, tous ceux qui sont porteurs de nouvelles idées, de start-up, etc., en leur disant, attention, La technologie, ce n'est pas la solution à tout. Il faut absolument remettre les écosystèmes au centre de ça, parce que si ce n'est pas pensé ainsi, eh bien on va continuer à aller dans le mur. C'est pas évident comme chemin. C'est pas facile forcément à comprendre pour tous et à faire en sorte que tout le monde puisse comprendre ces chaînes de valeur. Et une des solutions qu'on a trouvées, c'était, ben, comme disait Sébastien, c'était faire réfléchir les élèves et accueillir la parole de l'autre au travers des controverses. Et ces controverses, ben, typiquement, on leur donne une problématique de technologie pure et on leur dit, ben, selon vous, si on avait pensé autrement cette technologie et qu'on avait réussi à mettre d'abord la nature, les écosystèmes au centre, est-ce qu'aujourd'hui vous auriez fait la même chose ? Voilà, donc c'est pas chose facile, mais en tous les cas, c'est comme ça qu'on essaie de leur faire développer leur pensée critique aujourd'hui. Après, je ne sais plus ce que j'aurais pu dire par rapport aux différentes... Alors, c'est vrai qu'effectivement, hein, beaucoup de choses ont été dites hein, autour de cette table. Donc, je ne vais pas non plus faire de la redite par rapport à hier. Nos valeurs fondamentales, et là, je parle bien de valeurs, et les souhaits en fait qu'on aimerait faire avec nos élèves, c'est les faire travailler sur les chaînes de valeur, mais pas ce qu'on entend en termes de production, mais chaînes de valeur profondes humaines. Aujourd'hui, on leur fait faire des fresques du climat, fresques de l'eau, les ateliers d'automne, etc. Et un de nos projets, c'est de leur dire, eh bien, aujourd'hui, on va plutôt vous faire travailler sur une fresque qu'on appellerait la fresque des valeurs. Comment, lorsque vous arrivez, en fait, parce qu'il ne passe que 3 ans chez nous, hein, donc 3 ans, il faut y aller hein, pour les transformer, quand même, donc il faut être un petit peu acharné avec eux, on ne les a pas 5 ans. Et on leur dit, ben voilà, vous arrivez chez nous, début septembre, vous avez ce qu'on appelle la rentrée climat. Cette rentrée climat, elle est faite là, pour vous ouvrir l'esprit et pour vous dire, bon voilà, vous avez appris, vous êtes super bon en maths, en physique, en techno, en thermo, tout, stop. Maintenant, la problématique, elle est là. Et l'humain, il est au cœur de cette problématique. Quelles vont être vos valeurs à vous, profondes, pour dire que lorsque je serai quelqu'un d'actif dans une entreprise, sur un territoire, et même en tant que citoyen, quelles sont les valeurs qui me restent fortes pour m'assurer que les technologies que je vais pouvoir développer vont bien être pensées comme étant des technologies qui sont au centre de la nature, en fait. Vraiment, elles sont au service de, et non l'inverse. Ce n'est pas la nature qui doit être au service de la technologie, mais l'inverse. La technologie doit être au service de la nature. Et dans ces conditions, lorsqu'on leur donne des cours sur, par exemple, du développement de bâtiments durables, eh bien, vous avez, par exemple, des élèves qui nous disent, ben voilà, moi, ce que j'aimerais travailler, c'est comment est-ce qu'on peut réutiliser, par exemple, des terres hein, pour pouvoir faire des maisons plutôt en terre cuite. Travailler plutôt sur les low-tech, faire en sorte que ma maison, eh bien, ce soit un bâtiment qui soit passif. Donc voilà. Donc c'est comment développer chez eux ce système de valeurs. Donc il y a encore du travail. Hein. C'est-à-dire on n'est pas encore au bout d'open, c'est clair. Ça se fait pas du jour au lendemain. Et c'est pour ça aussi qu'on forme nos enseignants, parce que nos enseignants, c'est eux qui vont aller parler à nos ingénieurs. Donc eux aussi, on les forme à avoir cette chaîne de valeurs. Voilà. Et ainsi, ça. Donc souvent, en fait, ce que je dis, je suis directrice des transitions. Comme je dis, la transition, c'est passer d'un état A à un état B. On peut rester longtemps en transition, en fait. C'est-à-dire jamais atteindre l'état B. Notre objectif, c'est d'atteindre cet état B le plus rapidement possible. Donc souvent, je dis, je suis une directrice des transitions réussie. Et le jour où on n'aura plus besoin de moi dans cette école pour ça, eh bien, ça voudra dire en fait que j'aurai réussi mon travail. Ça voudra dire que ce sera vraiment incarné dans le système, qu'il n'y aura plus besoin d'une personne pour le porter, mais que ce sera tout le système qui le portera. Dans ces conditions, je pourrai aller faire autre chose et peut-être aller élever des chèvres au Larzac. Et ce sera très bien. Donc voilà. Donc pour moi, IMT Minalès, si elle veut former des ingénieurs qui puissent développer des systèmes robustes et ne plus penser à la performance, parce que nos élèves sont des ingénieurs performants. On les recrute comme ça. Ils sont recrutés sur concours. Donc, il faut les déformer. Ils arrivent, c'est d'abord, on doit les déformer. Je pense que l'INSA est encore meilleur que nous sur la déformation parce qu'ils ont été accompagnés par le Shift Project. Donc, nous, l'objectif, c'est faire une transition, mais réussie. Voilà, c'est tout ce que je pouvais rapporter.
Merci.
Bien sûr, je vais te repasser la parole. J'en profite pour dire, est-ce qu'on ne devrait pas apprendre à échouer ?
C'est très important.
J'ai une expérience de ma vie scolaire et étudiante avec une pression considérable. J'ai une copine d'enfance qui me regarde, parce qu'on a souffert pareil tous les deux à l'école, je crois. Pourquoi il y a cette peur de la sanction ? Pourquoi et tout à l'heure, vous parliez de causalité. Pourquoi en n'allant pas à l'échec, ça ne peut pas nous permettre de comprendre les raisons de tel ou tel échec et de comprendre peut-être la complexité. Alors, accepter qu'on ne peut pas tout intégrer dans les systèmes, de tout comprendre, mais en tout cas, sur une trajectoire qui a été choisie pour ramener à un projet, à quel endroit on sait ? À quel endroit on sait viander, quoi, tout simplement. Hein. Voilà.
Merci. Je voulais revenir et peut-être relancer la conversation qu'on avait tout à l'heure et puis aussi vous inviter aussi à ce qu'on dialogue tous ensemble. Là, c'est un peu le but de la manœuvre, mais c'est absolument pas ce que vous avez dit, mais on est passé un peu vite sur la surspécialisation. J'imagine que vous partagez le constat, mais pour ma chapelle, moi j'ai besoin de super spécialistes aussi, et je pense je le dis pour que ce soit dit aussi, on a besoin de reconnaître toutes les formes d'intelligence qui existent sur cette terre. Il y en a plein, il y en a qui ont de l'or dans les mains, d'autres dans le cœur, d'autres dans la tête, il y en a qui ont la chance d'avoir tout. Moi je suis un généraliste, voilà, je suis spécialiste nulle part, et donc ça, je me retrouve bien dans le discours, mais j'ai besoin de collègues qui soient, j'adore mes collègues botanistes, ornithologues, entomologues, parce que personne, j'ai besoin de leurs compétences, de leur savoir, j'ai besoin de super agricultrices, super paysans, j'ai besoin de super techniciens agronomiques, on en manque malheureusement, voilà, il y a des questions très 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 pointues qui se posent, et puis on a besoin de personnes qui ont la volonté, l'ouverture d'esprit, comme vous le disiez, de se comprendre, de comprendre l'altérité, de comprendre l'autre, ça ne veut pas dire être d'accord, mais il y a un processus de transformation en fait. Quand on fait l'effort de se comprendre, on commence déjà à se rejoindre un peu. Et après, parce qu'on a donné des petites bribes comme ça d'exemples en fait, de solutions, chaque territoire, chaque problématique trouve sa propre solution. Moi, je suis pas un fanatique de la réplicabilité là qu'on veut dans tout. Voilà, ça existe. J'y crois pas trop en fait. Par contre, y a des recettes qui vont garantir ou maximiser les chances qu'on va peut-être trouver une bonne solution, et d'autres qui vont garantir qu'on va trouver des mauvaises solutions. Et je travaille beaucoup avec des agriculteurs, mais je travaille aussi énormément avec des collectivités territoriales et des élus. C'est souvent mes interlocuteurs. Et quand on échange avec eux, moi, je respecte leur agenda politique ou, comment dire, ou réglementaire ou territorial. Néanmoins, si on veut prendre en compte la complexité là, des problématiques qui se causent à nous en restant dans les limites planétaires, en respectant la biosphère, si on veut concilier technosphère et biosphère, il faut partir des enjeux, et du coup on a besoin de les connaître. Vous connaissez super bien votre territoire dans lequel vous vivez, et puis il y a peut-être des domaines sur lesquels un tel ou une telle va vous dire le paysage économique par exemple là, des Hautes-Vallées Cévenoles, c'est ça, les contraintes avec lesquelles on doit jouer, c'est ça, et on n'y peut rien. Les enjeux écologiques ou les contraintes écologiques avec lesquelles on doit jouer, ou les restaurations écologiques qu'on doit impérativement faire ici, c'est celle-ci. Et puis une fois qu'on a posé tout ça sur la table, moi je fais confiance à l'intelligence, au talent des gens dans les territoires pour qu'on arbitre ensemble. Il me semble que vous êtes dans cette démarche ici sur la commune. Et quand on arbitre ensemble en connaissance de cause, les talents s'expriment et puis on assume les décisions. Par exemple, il y a des agriculteurs, on a besoin de manger, voilà, je mange des légumes, une exploitation maraîchère bio, en agriculture biologique diversifiée, maraîchage biodiversifié, c'est pas là où on va retrouver le plus de biodiversité sauvage, mais c'est pas grave. On peut faire des aménagements autour de la parcelle pour qu'à minimum, il y ait de la connectivité, que les espèces puissent circuler, et puis on a besoin de bouffer des légumes, voilà, et c'est très bien comme ça, et c'est heureux. Et on assume, du coup, ces choix-là. Exactement. Parfois, moi, je parle souvent de compromis et de convergence. Le pastoralisme, là, qui est un enjeu fort du territoire, qui se redéploie notamment parce qu'on a des très belles forêts et il faut les conserver. Mais dans certains coins, on a un petit peu trop de forêts. Il faudrait qu'on remosaïque un peu parce qu'il y a des espèces qui ne vivent pas dans la forêt. Elles ont besoin de milieux. On les appelle ouverts ou non boisés ou semi-ouverts. Et on a besoin d'avoir un peu plus un patchwork dans certains coins. Mais vous avez des gens ici qui vous en parleront beaucoup mieux que moi. Et donc là, il y a une convergence totale entre le pastoralisme et des enjeux écologiques majeurs. Et parfois, on va faire des compromis. Donc moi, je travaille au corps, mes collègues naturalistes pur jus, qui parfois disent « Ah non, j'ai pas trop envie de faire des compromis. » Nous, les écolos, on perd, en fait. On perd depuis des décennies, on est perdant. Je dis « Oui, mais là... Là, on comprend que ce compromis, on doit le faire parce qu'il faut qu'on bouffe des fruits et des légumes. Et on assume de faire des compromis en connaissance de cause. Et puis parfois, il y a une convergence totale et c'est plus facile. Voilà. Je voulais juste le verser aux échanges pour vous dire qu'il y a toujours des solutions, mais qu'il faut partir d'une connaissance fine que souvent les habitants des territoires ont, des contraintes, des enjeux, des envies aussi, voilà, qu'il y a pour être, s'assurer un peu d'être dans le vrai.
Peut-être passer la parole.
Côté public, Monsieur Charbonnier.
Ouais. Bon, non, je veux pas. Déjà, merci beaucoup. Et monsieur le psychanalyste, ça m'a beaucoup passionné. Puis tous, enfin, merci beaucoup. Non, il y a juste. Moi, je voudrais juste ajouter peut-être un point. C'est la question du temps. Je trouve qu'on a beaucoup parlé d'espace, mais que la question du temps, elle me paraît assez centrale. Et en fait, ce que je vais dire, je ne l'ai pas du tout inventé de ma tête, c'est un gars que j'adore, qui s'appelle Hartmut Rosa. Donc Hartmut Rosa, c'est un sociologue qui écrit sur le temps, et qui a notamment, qui nous dit en substance, on assiste à une accélération du temps, qui est assez folle. Et donc, dans son bouquin, quand on termine son bouquin, qu'il a écrit, je crois, en 2012, on se dit, waouh, par quel bout on va le prendre? En fait, on va dans le mur. Il y a vraiment une courbe, effectivement, d'accélération qui peut être assez effrayante. Et lui dit, en fait, il écrit un deuxième bouquin 5 ans plus tard qui s'appelle Résonance. Il dit en fait, la seule façon qu'on ait peut-être de s'en tirer, c'est d'accepter de laisser résonner les choses. Donc la résonance, c'est alors il analyse à travers différentes sphères, la sphère familiale, la sphère culturelle, la sphère éducative, la sphère professionnelle. Il dit en substance, il faut peut-être qu'on laisse un peu plus résonner les choses et qu'on prenne un peu plus le qu'on accepte que tout ne soit pas en permanence là, mais qu'on laisse résonner les choses. Donc typiquement l'altérité dont tu parlais, Sébastien, ça fait partie de ça. C'est j'accepte que l'autre, en fait, ait une parole divergente et ça prend du temps, mais ça résonne et il se passe des choses qui vont me faire grandir. Et moi, ce qui me frappe depuis 3 ans là dans le boulot qu'on fait avec Adrien, avec Edith, avec le conseil municipal, je pense en particulier à Adrien, pas tellement pour le personnaliser, mais c'est qu'en fait ce rapport au temps, moi je sais que je suis très malheureux quand je bosse avec lui, parce qu'il me fait exploser mon rapport au temps. C'est-à-dire que moi j'ai une vision assez rationnelle, assez... Putain, ce qu'on a fait en 4 heures, on aurait pu le faire en une demi-heure, combien de fois je te l'ai dit. Et en même temps, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est ce qu'on se dit souvent avec Jean-Christophe quand on bosse, on se dit « Waouh !» Mais quelque part, c'est la question de reprendre la maîtrise du temps et d'être capable de, parfois, effectivement, laisser passer un an et demi avant que quelque chose éclose. Parfois en 2 mois, de réussir à faire cet événement, ce qui est assez dingue. Et donc je pense que cette question de la réappropriation du temps et de la maîtrise du temps, elle me paraît plus centrale que jamais. Et qu'au-delà effectivement de la maîtrise des espaces, de la biosphère, de tout ce qu'on voit, je pense que cette question du rapport au temps est centrale. Et moi je terminerai là-dessus. Moi mes grands-parents étaient paysans aussi, mais en Alsace. Et c'est vrai que je me souviens de ce temps long qui était pris, ou de cette acceptation du temps qui se dilate. Et je pense que plus que jamais, la résistance à cette espèce d'accélération des transactions dans laquelle nous plonge le libéralisme, hein, parce qu'une transaction, c'est de l'argent. Plus j'en fais vite, plus je vais gagner d'argent. Je pense que là, il y a une lutte importante et que la robustesse se construira aussi dans cette capacité à résister à cette accélération et à se maintenir dans cette appropriation du temps. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
D'autres interventions. Le micro a dit, je vais quand même y répondre, juste je me permets un premier sur la dilatation du temps, mais il y a des sphères de temps aussi, c'est-à-dire qu'en fonction des gens avec qui on gravite, la façon dont la pensée elle évolue, dont les gens se saisissent de telles informations, de tels phénomènes, de telles modifications dans tel ou tel comportement. Un conseil municipal, c'est aussi un univers. Tout à l'heure, on parlait de ça. C'est un univers dans lequel on découvre des gens tels qu'ils sont face à une décision à assumer face au public. Et on les découvre aussi, alors quand je dis, c'est absolument pas une critique, on les découvre au regard de cette prise de responsabilité qu'ils doivent assumer. Et ce n'est pas les mêmes individus que dans la vie privée. on se rend compte que des amis ont des opinions divergentes. On cherche des points de convergence pour essayer de prendre une décision qui ne sera pas celle qu'on avait imaginée au départ, mais qui sera une qui peut être assumée ou qui peut être acceptée par les deux parties. Donc c'est un univers, et c'est vrai, tu vois, ce dialogue-là en public est intéressant parce que ça me permet de comprendre comment toi, tu ressens un temps qui passe, qui en fait pour moi est peut-être hyper accéléré, parce que j'ai dû faire vriller mon conseil sur 15 jours pour faire un truc, mais par contre les 15 jours je pouvais pas faire plus court. Je rends la parole.
Vous avez en fait déjà commencé un peu à répondre à ce que je disais. En fait, souvent, ce pays de mots, on dit que, enfin, vous venez de dire que le temps va de plus en plus vite et s'accélère. Alors, c'est là où, pour répondre à madame, on a besoin effectivement de gens qui ont des connaissances très pointues, puisqu'un physicien quantique vous dira le temps n'existe pas. Et effectivement, au niveau atomique ou électronique et tout ça, les opérations sont réversibles. Donc c'est les diagrammes de Feynman. Le diagramme de Feynman, on peut lire le diagramme de Feynman à l'envers. Donc le physicien pointu qui discutera avec vous vous dira non, vous avez besoin de gens hyper spécialisés pour remettre en faire les pieds sur Terre, ou du moins sur l'électron, pour que vous changiez un peu les mots que vous utilisez. C'est pas une attaque personnelle, hein, parce que moi aussi je dis que le temps passe beaucoup plus vite. Mais on a donc besoin, en fait, de gens ayant des connaissances pointues, mais aussi d'une interdisciplinarité, ce que Edgar Morin a dit bien avant moi. Et pour finir et continuer sur ce que vous disiez, madame, en fait, moi je suis surpris que vous ayez besoin d'expliquer à des apprentis, des élèves ingénieurs, ce que l'écologie nous dit depuis 60 ans maintenant, les années 60. Mais qu'a fait l'école entre les deux ? Comment se fait-il qu'ils arrivent avec ce bas niveau, bas entre guillemets, et qu'il n'ait pas été déjà depuis 60 ans impliqué dans ce changement écologique qui est à tous nécessaire ? Qu'a fait l'école ? À quoi sert l'école ? Auquel cas, si l'école avait bien travaillé, comme vous disiez vous-même, vous n'auriez plus rien à faire. Donc, que fait l'école ?
Pas que. Pas que. Moi, je sors de l'école, je ne suis pas ingénieur. Qu'a fait l'école jusqu'à présent ? Moi, j'ai deux adolescents. Et l'écologie, en fait, ils l'ont fait dans mon jardin. Voilà. Parce que depuis tout petit, en fait, j'ai dit, ben, le vivant, c'est important. Déjà, les mettre les quatre pattes dans l'herbe, c'est très bien. Comme ça, ils vont développer leur système immunitaire. Ils vont être au début, certes, malades, mais après, ils vont être résistants, robustes, tout ce que vous voulez. Je pense que l'école, effectivement, ne met pas nos enfants en extérieur. L'école se passe entre quatre murs. Si vous voulez des enfants en extérieur, il faut changer de système scolaire. Il faut aller dans les écoles Montessori, il faut aller ailleurs. Et même si vous faites les écoles Montessori, à partir de la sixième, de toute façon, vous revenez dans le système classique, qui est très classico-classique, où les élèves commencent à 8h, terminent à 18h. Ils n'ont même plus le temps de faire du sport, ils n'ont plus le temps d'échanger avec vous. Quand ils rentrent, ils se mettent sur leur téléphone. Donc en fait, les élèves, je trouve, dans notre système scolaire aujourd'hui, encore plus qu'à mon époque, sont déjà en plein dans une technosphère. Ça, c'est clair. Et ils sont entourés d'objets technologiques beaucoup plus que ce que moi j'avais. Moi, je me souviens, alors vous avez peut-être deviné mon âge du coup, mais je faisais ce qu'on appelait l'EMT. L'EMT, c'était un truc génial, moi, je trouvais. Tu faisais des trucs avec tes mains, tu fabriquais des choses, tu pouvais faire de la couture. Les EMT, les élèves, ils savent même pas ce que c'est. Quand on faisait de la biologie, moi, je vois leurs cours de biologie ou de développement de connaissances sur le vivant. C'est affligeant. Moi, je leur dis, j'aurais dû, si je devais faire mes études maintenant, je suis pas sûre que je serais devenue chercheuse en biologie. Parce que ça m'aurait tellement ennuyé ce qu'ils font, parce qu'ils rabâchent les mêmes choses et ils ne vont pas dans la profondeur des choses. Et effectivement, nos élèves sont des élèves hyper pointus en sciences. Le plus souvent, les nôtres sont mathématiques, physiques. Il y a quelques rares qui ont de la biologie, parce qu'on a 2-3 qui ont fait BCPST, qui est l'équivalent de la prépa bio de l'époque. Donc la plupart de nos élèves ne connaissent pas le vivant si eux-mêmes ne sont pas issus d'une famille d'agriculteurs et de personnes qui les mettent en extérieur. Parce qu'aujourd'hui, le système scolaire ne le fait pas. Donc souvent, en fait, moi, en tant qu'élu du territoire, je travaille justement avec les petites classes pour faire des journées qui sont des journées extérieures, des journées biodiversité, des journées ramassage de déchets dans les forêts, en fait. Et rien que le fait de mettre ces petits en ramassage de déchets dans les forêts, déjà, ils sortent. Ça leur fait plaisir. Ils ont appris quelque chose. Les parents sont super contents parce que, du coup, ils ne les ont pas pendant une journée. Et ils sont super fiers en disant « Punaise, j'ai ramassé tout ça de déchets, c'est horrible, mais je suis fière de ce que j'ai fait et j'ai découvert la nature. » Donc, effectivement, aujourd'hui, les élèves qu'on reçoit, il y a, je dirais peut-être qu'il y a 10% qui sont conscients qu'eux-mêmes font partie d'un écosystème. Les élèves, le plus souvent j'ai, quand ils passent en cours de bio avec moi, et c'est pour ça que j'avais insisté il y a quelques années pour faire ces cours de biologie, parce que je disais, on ne peut pas faire nous-mêmes partie d'un écosystème sans en être conscient. Et mon objectif, c'est ça, c'est de les rendre conscients qu'eux-mêmes, ils sont un écosystème et que dans eux, ils sont à l'intérieur d'eux, il y a des milliards d'organismes. Donc ils ne sont pas seuls. Voilà, souvent je dis, vous n'êtes pas seuls. Vous êtes en cohabitation avec plein de choses. Donc voilà, des choses qui sont extraordinaires, qu'on découvre encore pour de la médecine, etc. Donc oui, je suis d'accord avec vous qu'aujourd'hui, l'école, le système scolaire dans lequel évoluent nos enfants jusqu'au bac, n'est pas le plus adapté pour les faire se rendre compte de ça. Donc c'est soit à nous parents de le faire, soit à nous de proposer à l'école des petites sorties, des conférences, des choses comme ça, mais le système ne fait pas ça. Et j'avais un autre sujet sur lequel je voulais rebondir, mais je ne sais plus. Donc c'est pas grave, ça reviendra.
Alors, qui va intervenir encore ?
Oui, c'était le rapport au temps. Je me disais en fait que le rapport au temps est complètement différent quand vous vous placez dans la biosphère que quand vous vous placez dans la technosphère. Dans la technosphère, on court. Tout se fait extrêmement vite. Vous recevez des mails. Maintenant, si on vous envoie un mail sur une demande et qu'au bout d'une heure, vous n'avez pas répondu, vous avez un mail. Qu'est-ce que tu fais? Et j'attends ma réponse. Les réseaux sociaux, ça va très vite. Aujourd'hui, l'information va très vite. Donc voilà, la preuve, c'est que du coup, le transfert de toutes les bactéries, de toutes les maladies vont aussi très vite parce que nous avons l'avion, parce que tout va beaucoup plus vite dans la technosphère. Dans la biosphère, ça aussi, c'est une notion aussi qu'on dit à nos élèves. Ça prend son temps. Une cellule, quand elle se multiplie, il y a un temps pour fabriquer les protéines, pour faire la multiplication cellulaire. Voilà, un bébé, il faut 9 mois. C'est pas 9 jours, c'est que 9 mois. Et la problématique, c'est comment réconcilier, en fait, cette différence de temps, parce que c'est vrai qu'entre la technosphère et la biosphère, pour les faire se parler et faire en sorte que la technosphère soit au service de la biosphère, c'est pas évident, parce qu'il y a aussi cette barrière du temps. Et on veut toujours que ça aille beaucoup plus vite.
C'est marrant, on va te passer la parole. C'est marrant parce que des fois la technosphère doit dérailler, parce que moi il m'est arrivé d'avoir des instructions de dossiers techniques pour construire des ouvrages qui aient mis 18 mois avant de pouvoir être mis en exécution. Et je me rappelle de dire aux ingénieurs, je suis obligé de vous le dire, c'est trop drôle, mais vous vous rendez compte que une femme aurait eu le temps de concevoir et d'accoucher 2 fois,
eh oui, bien sûr,
pour que votre plan soit validé. Ah, je te passe la parole, Sébastien.
Ça s'appelle l'administratiosphère.
C'est pas pareil. On l'avait oublié, celle-ci.
Ouais, ou la bureaucratisphère. Juste par rapport à ce que vous disiez sur la physique quantique et le rapport au temps, on a construit un rapport complètement artificiel à ce temps, complètement artificiel. Il y a un excellent bouquin qui s'appelle Le choix du vivant. C'est un gars qui partait plein d'idées. Il a été récupéré par des Indiens, peuple primitif dans la cordillère des Andes. Et en fait, ils l'ont soigné et à leur contact, il a appris des choses. Il s'est dit, mais je vais l'amener dans les entreprises, etc. Et ça rejoint un des principes de la spiritualité indienne qui est le temps fait ce qu'il a à faire. Et en fait, moi, je le dis souvent parce qu'une fois qu'on a ce lâcher prise pour notre écologie et nos tripes, ça fait un bien fou en fait. Parce que du coup, on se dit, bon, je fais le meilleur de moi-même et après, le temps fait ce qu'il a à faire. Et ça, On en parle des fois avec les élèves. C'est bon, quoi. C'est un peu de lâcher prise, des fois aussi, ça fait du bien, parce qu'il faut quand même, en métaposition, se dire c'est très artificiel le rapport au temps qu'on a construit. Il est que artificiel parce qu'on est avec des cycles, et ça aussi les Indiens le savent très bien, d'une planète qui sont ce qu'ils sont, et peut-être que si on se connectait déjà un peu plus sur ces cycles, et tu le disais aussi tout à l'heure, Ingrid, les salles à l'extérieur, on est en train de repenser notre campus à l'école. Moi, je demande qu'on ait des salles de cours à l'extérieur, sous les arbres. Et pas forcément quatre murs, du béton, etc. Parce que d'abord, ça fait cage de tout ce que vous voulez. On ne reçoit pas les énergies de la Terre, on reçoit rien entre quatre murs. Quoi. Voilà. Et on va y arriver, hein, puisque là, on a une opportunité, on est en train de refaire l'école. Donc, s'ils me refont des tours de béton, je pète un câble, moi. C'est juste pas possible. Quoi. Alors, et en même temps, on fait du génie civil. Donc, tu vois, le...
voilà. Bien pensé, durable, en fait.
Non, je... D'accord, merci à toi. Ouais, moi j'avais un petit conseil lecture à donner sur le sujet. Non, alors sérieusement, j'ai un petit conseil à donner, c'est sur le rapport entre biosphère et technosphère. C'est un livre qui s'appelle Le bug humain, je ne sais pas si vous l'avez vu, de Sébastien Boller. C'est assez intéressant parce qu'il parle en fait de notre conditionnement. Alors, par le striatum, qui est une partie du cerveau, qui a fait que depuis des millénaires, on est conditionné à consommer toujours plus. Il dit que la technologie ou que la technosphère a accéléré tout ce phénomène. Donc là, c'est évidemment... et après, il donne des solutions, enfin des approches, un peu ce que tu dis, je rebondis ce que tu dis, dans un deuxième bouquin qui s'appelle, je crois, En quête de sens, où il dit justement comment essayer de se dissocier de ce conditionnement accéléré par la technosphère. Voilà, Le bug humain de Sébastien Boller. J'aime bien ce bouquin. Voilà, c'est tout.